Bonjour à tous. Alors, rapidement pour me présenter, donc je suis Emmanuel, je suis là avec mon épouse Nathalie et donc nous travaillons à Lens, donc on exerce un ministère bivocationnel avec un mi-temps en tant qu'infirmier, un mi-temps pour la mission France pour Christ, et donc on travaille là à l'implantation d'église et puis là, progressivement la structuration de l'église depuis maintenant 26 ans, on est à Lens. Et ben, en fait, ça fait toujours très chaud au cœur de voir dans d'autres contextes des frères et sœurs qui persévèrent en la foi. Et si vous êtes là ce matin, c'est quand même c'est un événement assez incroyable. Comment Dieu se choisit des gens et les rend persévérants, patients, pour qu'ils puissent faire face aux défis de la vie. Qui d'entre vous a eu la vie exactement que vous vous imaginiez quand vous êtes arrivé dans la famille de Dieu, quand vous avez pu naître de nouveau? Qui a vécu exactement la vie qu'il imaginait? Personne qui lève la main? C'est curieux, hein? Parce que nous, on imagine les choses, on imagine des autoroutes, des voies bien droites, et en fait, c'est des fois tout l'inverse. Et en fait, ce qui nous permet de tenir, si vous êtes là ce matin, c'est parce que il y a un Père Céleste qui prend soin de nous, qui vient avec nous, qui ne nous abandonne pas, qui a placé son esprit en nous et qui nous rend fidèles jusqu'au bout. Mais nous sommes tout petits, nous sommes juste incapables de pouvoir mener cette vie que Dieu veut que nous menions, mais lui nous rend fidèles. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, alors on entre dans des périodes sportives, avec notamment le Tour de France, avec d'autres événements, la Coupe du Monde. Et est-ce que vous avez déjà vu des coureurs cyclistes qui sont quasiment sûrs de gagner et qui, au dernier moment, regardent pour être sûrs qu'ils gagnent et puis il y en a un qui passe encore devant? Juste parce qu'à un instant, ils ont détourné leur regard de la ligne d'arrivée. Et ça peut coûter des fois des victoires. Et en fait, ce matin, je voudrais vous parler de cette notion-là, du regard bien orienté. Alors, on vit au milieu d'un monde perverti qui a tendance à nous tirer vers une autre direction, qui va à l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Et comment faire pour pas se laisser corrompre? Vous souvenez que Jésus avait cette même préoccupation pour ses disciples. En Jean 17, on voit qu'il est sur le point de partir, de monter vers le Père, et là, il dit dans sa prière, désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que moi, je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Et donc, on sent vraiment cette préoccupation de Jésus pour ses disciples. Il sait, mais cette tension est là. Et comment pouvons-nous continuer la course? Comment ne pas se laisser endormir? Comment rester influent pour nos contemporains? Comment vivre aujourd'hui dans notre contexte occidental qui a d'autres valeurs que celles du royaume de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour nous aussi qui sommes envoyés dans ce monde, même si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, que nous nous laissions happer, entraîner par l'Esprit de ce monde? Alors comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde sans se laisser pervertir, sans se laisser corrompre, sans se laisser entraîner nous-mêmes? Comment faire pour que nos lumières puissent continuer à briller bien fort dans ces ténèbres? Il me semble que tout est une question de regard. Hélène Keller, qui était une femme sourde, muette, aveugle, au siècle dernier, disait « La personne la plus pathétique au monde est celle qui possède la vue mais qui n'a aucune vision. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Faute de vision, le peuple périt ». Nous avons besoin d'avoir une vision claire. Alors j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles en Hébreux 12, versets 1 à 3, un texte qui est bien connu, mais qui répond à cette question « Comment est-ce qu'on peut garder la ligne d'arrivée en ligne de mire ? Comment est-ce qu'on peut persévérer ? Comment est-ce qu'on peut gagner cette course ? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Juste un petit aparté, la semaine dernière j'ai prêché sur Jacques 1 verset 1 à 4, je voulais prêcher là-dessus aujourd'hui, mais Gilles m'a dit qu'il a prêché là-dessus il y a un mois, et ben là il dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou les diverses situations difficiles auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que la foi éprouvée produit la persévérance. » Et ici on voit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Alors, le premier point que je voudrais développer, c'est continuons à courir l'épreuve, ou ce chemin de la foi, en regardant à tous ceux qui sont déjà passés devant nous, et comment eux, ils ont couru. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en fait, pour nous encourager à persévérer dans notre foi en Jésus, l'auteur nous rappelle les héros de la foi de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant de voir comment d'autres traversent les difficultés. Quand vous faites face aux difficultés de la vie, c'est bon d'avoir des personnes autour de vous qui, eux aussi, ont traversé les difficultés. Et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir des gens qui ont traversé des gros coups durs que des gens pour qui tout a été toujours très facile. Parce que là, on peut voir, waouh, ils ont tenu, ça parle. Et ces gens sont partis avant nous, ils ont emprunté ce chemin de la foi, ils ne se sont pas arrêtés aux circonstances extérieures, ils ne se sont pas arrêtés à leurs sentiments, à ce qu'ils ressentaient dans le moment présent, à leurs impressions. Ils ne se sont pas laissés emporter par la pensée environnante, par le monde environnant dans lequel ils vivaient, par l'idolâtrie. Non, ils ont espéré en Dieu, malgré tout. Et ils ont préféré l'héritage céleste qui leur était promis. On pense aux amis de Daniel, hein, qui étaient là, qui devaient s'incliner. Ils disent, non, non, nous, on ne va pas s'incliner là. Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et s'il ne le fait pas, ben voilà, nous, sache que nous, on ne s'inclinera pas. Incroyable. Des ados. Dans un monde totalement hostile. Des gens qui ont été privés de leur identité, c'est-à-dire leur culture, qui ont été déportés, qui ont vécu des choses très traumatisantes à vue humaine, mais pas des gens perturbés, des gens qui comprennent leur identité réelle. Non, non, nous, on ne va pas s'incliner devant cette statue. Nous, on sert un autre roi. Et s'il ne veut pas nous délivrer de ta main, t'inquiète, ça c'est pas notre affaire. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ces gens qui étaient comme nous, qui avaient peur comme nous, mais qui ont vécu par la foi. En Hébreux 11, versets 13 et 14, on peut lire « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Comment Moïse a fait, par exemple, pour faire le bon choix? C'était une question de regard. Un peu plus loin, au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Et il considérait l'humiliation de Christ, l'humiliation attachée au Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Question de regard. Où est-ce qu'on regarde? À quoi est-ce qu'on regarde? Son focus était sur Dieu. Il a abandonné les richesses immenses pour souffrir pour le compte de Christ. Aux yeux des Égyptiens, en fait, il avait abandonné ses richesses pour quelque chose de honteux. Mais aux yeux de Dieu, ça avait beaucoup de valeur. Moïse savait qu'il obtenait, au lieu de l'Égypte, une récompense céleste bien plus importante. Et sans plus y réfléchir, il a abandonné une formidable richesse parce qu'il avait un trésor beaucoup plus important. Quel est notre trésor ? Ressemblons-nous à cette personne pathétique qui n'a aucune vision, ou est-ce qu'on poursuit inlassablement les intérêts de Dieu, les yeux rivés sur notre patrie céleste? Souvenez de Pierre quand il est sorti de la barque. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il a perdu pied? C'est quand ses regards se sont détournés de Christ. On regarde les circonstances, on regarde autour de soi et on s'enfonce. Le regard fixé au bon endroit. Voilà notre appel. Ce que nous regardons, ce sur quoi nous nous attardons, montre en fait la place que ça a dans notre cœur. Et donc c'est intéressant d'observer un tout petit peu vers où j'oriente mes regards, parce que ça parle de notre cœur. Et pour ça, aimons Jésus, parce que plus nous allons aimer Jésus, plus notre regard va progressivement s'orienter sur Jésus, de plus en plus. On lisait tout à l'heure dans l'Épître aux Colossiens, dans le chapitre 2, et là je voudrais aller au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Encore une question de regard. En Hébreux 11, on a donc toute une série de témoins qui sont cités pour qui les choses ont plutôt bien tourné. Délivrer la gueule du lion, de la fournaise ardente, des choses incroyables. Les gens qui ont vu leur mort ressusciter. Et puis, il y a aussi toute une partie de gens pour qui les choses ont franchement mal tourné. Des gens qui n'ont pas été délivrés, pourtant qui avaient la même foi. Des gens qui ont enduré les pires épreuves, qui sont morts dans d'atroces souffrances. Des gens qui n'ont pas eu le succès que d'autres ont eu. Pourquoi ? Est-ce que Dieu est injuste ? Et ça peut être troublant à certains moments parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'un est délivré et l'autre est scié en deux. Toutes ces personnes ce qui fait leur point commun, c'est qu'ils n'ont pas abandonné leur espérance en Dieu. Ils ne se sont pas attachés à ce que Dieu va faire comme les amis de Daniel. Si toutefois il ne nous délivrait pas de ta main, nous, on ne va pas se courber devant les idoles. Ils ont remis ça à Dieu. On remet notre vie au Seigneur. Et il s'occupe de tout. Et prenons exemple sur ces modèles de foi. Dans nos vies, dans votre vie d'église, dans nos parcours qui des fois nous sont un peu tortueux où on ne comprend pas où le Seigneur veut nous conduire. Continuons à lui faire confiance. Ces héros ont attaché plus d'importance à la parole que Dieu leur avait donnée qu'à leurs impressions, leurs envies. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Prenons exemple. En fait, vous avez vu ce que Dieu pense de ceux qui persévèrent dans la foi malgré les difficultés et les souffrances. Qu'est-ce qu'il dit ? Hébreux 11, verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'était pas digne d'eux. Incroyable ! Incroyable ! Ils auront leur récompense. Et nous aussi, nous aurons notre récompense. Si nous continuons comme la course à laquelle nous avons été appelés. Il dit courir avec persévérance. Et on sait que l'image de la course, c'est une bonne image pour illustrer la vie chrétienne. Et c'est plus une course de fond, une course de marathon qu'une course de vitesse. Et pour pouvoir courir cette course, il y a des moments où, en tout cas, c'est plus facile de courir cette course léger, en étant le plus léger possible, qu'en ayant des vêtements très lourds, en ayant un gros sac à dos, en ayant des choses comme ça qui nous retiennent. Et dans l'Antiquité, ils couraient tout nus, le plus léger possible, pour pouvoir courir cette course, pour pouvoir la gagner. Aucun détail ne devait être négligé. Et là, l'auteur nous invite à nous débarrasser de tout fardeau. Et en particulier de ce fardeau pesant, lourd, ce boulet du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Il y a tellement de choses qui peuvent nous handicaper. Mais par contre, le péché, alors celui-là, c'est vraiment quelque chose de plombant. C'est quelque chose de plombant. Et ça nous handicape. Et on a besoin pour ça de revenir sans arrêt à ce que Christ a accompli pour nous. Il nous a pardonné, il nous a lavé. Notre péché d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est pardonné. Mais revenons pour que de plus en plus nous puissions préférer les trésors du Seigneur plutôt au trésor d'Égypte, au trésor de l'Égypte. Continuons à marcher sur ce chemin étroit. Continuons à nous repentir, à vivre dans cette attitude de repentance. Tout comme Moïse et les autres témoins, gardons les yeux fixés sur la patrie céleste, sur la rémunération. Notre but n'est pas ici-bas. On n'est que de passage, étrangers et voyageurs sur cette terre. Il le dit un peu plus tard, en Hébreux 13, me semble-t-il, que je pense que c'est « Nous n'avons pas ici de cité permanente », non, il me semble. Oui, c'est au verset 14. « En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. » Continuons à rechercher celle qui est à venir. Deuxième chose que je voudrais dire, continuons cette course en levant nos yeux vers Jésus. Bien sûr, regardez vers ceux qui sont passés devant nous, mais regardons à Jésus. En français courant, on peut lire « Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu. Voilà comment on peut atteindre le but, voilà comment on peut poursuivre cette course sans nous laisser influencer, sans nous laisser impressionner par les épreuves, les persécutions, en ne perdant pas de vue l'auteur de notre espérance. Toujours en Colossiens, Paul n'arrête pas de réorienter les regards de ses lecteurs sur Jésus-Christ. Il nous rappelle que nous avons tout pleinement en Christ, que c'est en lui que sont cachés tous les trésors, la connaissance et de la sagesse. Tout a été créé par lui et pour lui. Toute la plénitude de Dieu habite en Christ. C'est donc précisément sur lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, que notre focus doit sans arrêt réorienter. D'accord, ta situation est difficile, mais t'as un Seigneur incroyable. Et ça doit nous motiver. Ne nous concentrons pas sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, sur toutes les injustices dont nous avons été victimes, sur toutes les difficultés, les souffrances. Concentrons-nous sur notre merveilleux Rédempteur, Christ. Il est digne de toute notre attention. Il est notre défenseur. Il est notre avocat. Il plaide en notre faveur. Et donc, Jésus est digne de notre attention parce que lui, en même temps qu'il est le Seigneur de l'univers, il est venu dans ce monde et il a marché dans ce monde. Il a traversé ses difficultés, il nous a ouvert un chemin. Il nous a frayé un chemin au milieu de l'hostilité, au milieu de ce monde poussiéreux, pécheur. Il a eu les mêmes tentations. Il a connu les mêmes détresses que nous. Il a connu les mêmes émotions troublées que nous. Et il a persévéré jusqu'au bout, pour que nous puissions être secourus dans nos détresses, dans nos difficultés, si bien que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Il comprend. Il sait. Quand il était dans le jardin de Gethsémané, il a crié à son père, angoissé. Il a vécu les tourments dans l'âme. Il savait ce qui l'attendait. Il peut donc pleinement nous comprendre. Et c'est dans les larmes, avec de grands cris, dans l'angoisse qu'il l'a fait et qu'il a triomphé de la puissance des ténèbres. On l'a lu tout à l'heure en Colossiens 2, comment ce triomphe est total. S'est manifesté à la croix. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Voilà comment il a pu passer par les choses difficiles, parce qu'il avait en ligne de mire ce qui était le plus précieux pour lui. Son focus était braqué sur la gloire de son Père. Qu'est-ce qui retient notre attention? Ce qui marche bien dans ce monde? Ce qui est très valorisé? Ce qui est facile? Qu'est-ce qui nous attire? Est-ce qu'on veut que nos problèmes soient réglés? Ou est-ce qu'on veut plutôt devenir de plus en plus saints? C'est à ça qu'on est appelé. Paul le dit aux Thessaloniciens, progresser dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez de plus en plus saints. Pas que vos problèmes soient réglés. Il s'en occupe. Dans la prière de Gethsémané, Jésus lui-même, accablé de tristesse et d'angoisse, a dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, hein, comme les amis de Daniel, bon, toutefois s'il ne le faisait pas, et là, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Question de regard. Le regard fixé sur la gloire de son Père. Jésus a accordé plus de valeur à ce qui était meilleur qu'à n'importe quelle autre chose. Et c'est lui, c'est sur lui, sur son exemple, que nous pouvons aujourd'hui nous concentrer. En 1 Pierre 2, verset 21, il est dit que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il vous a frayé un chemin. Et ce n'est pas le chemin de la facilité. Ce n'est pas le chemin où tu n'auras jamais de problème. Chemin difficile. Et Christ l'a emprunté avant toi pour te donner, te montrer le chemin et il va le traverser avec toi. On sait qu'on n'est jamais seul, plus jamais seul. Il vient avec nous. Il l'a promis. À quoi regardons-nous? À quoi regardes-tu aujourd'hui, ces derniers temps? Es-tu découragé peut-être? Réoriente tes regards. Il y a un chant qui dit « Turn your eyes upon Jesus ». Tourne tes yeux. Alors, il y a une prof d'anglais, donc elle va me corriger mon anglais, mais elle pourra le dire... Elle pourra vous le redire comment on l'exprime parfaitement. Mais tournons nos regards vers Jésus. Tout va bien dans ta vie? Tourne tes regards vers Jésus. Parce que ces choses-là vont passer. C'est difficile en ce moment? Tourne tes regards vers Jésus. La vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas une promenade du dimanche après-midi, tranquille. C'est un vrai combat, et vous le savez. Mais nous avons une perspective. Nous avons un merveilleux Rédempteur qui a emprunté ce chemin, qui nous comprend, qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas. Continuons à regarder à lui, pour pouvoir persévérer dans cette course. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est prenons courage. C'est le verset 3 de ce texte d'Hébreux. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Dans la Bible en français courant, il dit « Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs ». Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Fabuleux. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de suivre Christ sur ce chemin de la foi. Nous ne suffisons pas. Mais l'auteur aux Hébreux nous dit, pensez à celui. La nécessité de fixer nos pensées, considérer attentivement. C'est nécessaire pour pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Pour ça, ne regardons pas trop vite à droite, à gauche ce qui se passe, parce que ça peut nous freiner dans notre course. Mais continuons à regarder devant, à la ligne d'arrivée. Et courons avec persévérance cette épreuve qui nous est proposée. Est-ce que vous... Ça vous est déjà arrivé de penser à ce que les disciples devaient ressentir au moment de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané, quand ils étaient autour de lui pendant la nuit de la trahison. En fait, ils étaient accablés. Ils étaient accablés par la tristesse, la fatigue. Et là, Jésus leur répète à trois reprises, « Priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » Et peut-être qu'il s'agissait là de la tentation d'abandonner leur foi en cours de route. Parce que tellement déçu, m'a déçu. Moi, je m'attendais à autre chose. Voilà, voilà ce qui est arrivé. Nous, on l'a suivi. Maintenant, ils l'ont tué. Il est où maintenant ? Leurs espoirs les plus chers ont volé en éclats. Quelle désillusion ! Et nous aussi, nous pouvons avoir de grandes désillusions. Parce qu'on s'imaginait que ça serait beaucoup plus simple. On s'imaginerait peut-être que, après, je ne sais pas combien, 20 ou 30 ans de vie d'église ici, ben l'église serait une méga church ici à Saint-Quentin. On s'imaginait peut-être que, et on pourrait dire plein de choses, on avait une vision un peu plus idéaliste de ce que devrait être notre vie. Pourtant, les choses se sont passées autrement, pleinement sous contrôle de Dieu, mais autrement. Et on peut passer, nous aussi, par des moments de déception. Priez afin que vous ne cédiez pas à la tentation. Dieu a beaucoup mieux que le soulagement face à nos difficultés. Il nous laisse un peu patauger dans la semoule, dans le désarroi. C'est vrai. Mais il vise un but. Dieu n'agit pas comme ça au hasard. Il vise quelque chose. Il veut former en toi l'image de Christ. Et pour ça, ça passe par le brisement. Ça passe par des changements d'orientation. Ça passe par des désillusions. Pour que de plus en plus, notre joie ne se concentre plus sur ces choses qui me stabilisaient, mais de plus en plus sur Christ. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que la foi éprouvée produit la persévérance, etc. Mais considérez comme un sujet de joie complète. Porter une attention particulière. Tout ce que tu vis, tu peux prendre de la hauteur. C'est entre les bonnes mains d'un Dieu qui tient ta vie, qui t'a choisi pour te faire partager sa gloire. Et donc, on a des vies un peu chaotiques, des parcours un peu étonnants. Mais entre les bonnes mains d'un Dieu qui amène tout pour sa gloire. Dans notre désarroi, dans ce qui nous désespère, tournons nos regards résolument vers Christ et rappelons-nous que Dieu ne se trompe pas. Jean 16, verset 33 nous dit « Il fallait que je vous dise aussi tout cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions et vous les connaissez. Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a tout supporté. Le renoncement au péché, la haine, la méchanceté, les moqueries, le rejet, le procès truqué, la condamnation injuste par Israël et ses chefs religieux, il a tout supporté. Et en cela, c'est le parfait exemple pour toi et pour moi. Et il est celui qui nous donne au quotidien la force de supporter ces situations. Vous connaissez le principe de la manne ? C'est précieux, ce principe de la manne. Parce que ce principe de la manne, c'est un jour à la fois. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et si tu regardes en arrière, le peuple, après 40 ans, pouvait dire « Tous les jours, Dieu a pourvu. Mais je ne devais pas faire de provision pour la journée de demain. » Un jour après l'autre, apprendre à faire confiance à Dieu. Si j'ai quelque chose aujourd'hui, je lui fais confiance que demain, il pourvoira à nouveau. Précieux pour nos vies terrestres, instables, insécurisantes, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ne perdons pas courage. Dieu agit en nous pour nous amener de plus en plus à nous réjouir en lui. Vous vivez des situations dramatiques. Prenez courage. Continuez à placer en lui votre confiance. Il va faire naître en vous une soif de plus, une soif de Jésus. Venez à lui dans votre faiblesse. Laissez-vous fortifier, encourager par son esprit, sachant qu'il intercède pour vous et qu'il a mis son Esprit Saint en vous, qui lui aussi intercède, qui lui aussi vous soutient. Persévérons ensemble sur ce chemin que Christ nous a ouvert avec une entière confiance en Dieu. Abandonnons-lui toute notre vie, nos ambitions, nos frustrations, nos échecs, nos péchés. Réorientons nos jumelles sur Christ. C'est lui qui est digne de toute notre attention. Pas est-ce que les choses vont bien ou pas. Pas est-ce que tu réussis tes examens ou pas. C'est lui qui est digne de toute notre attention. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage à persévérer dans cette course qui aura une fin glorieuse, le jour de Jésus-Christ. Amen.